Bonjour, ici Radio Grand Ciel, studio de Châteaudun. Dans le cadre de la commémoration de l'adversité envers les Prussiens il y a 50 ans, Jean-Claude Galerne va nous parler aujourd'hui de la bataille de Loigny, qui n'est pas bien loin à l'est de Châteaudun. Bonjour Jean-Claude, ici Henri Méchel pour la technique.
Oui, cet épisode de notre vie et cette bataille de Châteaudun que nous avons donc énoncée dans une émission précédente a été précédé d'un certain nombre d'accrochages dans les villages autour. Et si en ce début du mois d'octobre 1870, à Châteaudun, il ne se passe rien, le Dunois est sillonné de patrouilles prussiennes. L'armée ennemie se dirige vers Orléans et se déploie à l'ouest avec des reconnaissances depuis Toury et Artenay. Le 10 octobre à Châteaudun, avec surprise, on les voit à 300 mètres du passage à niveau sur la route d'Orléans. Au retour, cette patrouille prussienne est accroché par les gardes mobiles de Civry et de Varize. Un officier de Uhlan est tué et enterré au cimetière de la commune. Le 11 octobre, les Prussiens attaquent et bombardent Orléans. Le maire d'Orléans demande à cesser le feu et ordonne aux troupes françaises de quitter la ville. À 23 heures, le général en chef von der Tann entre dans Orléans. Ce sera son QG. La Beauce est ouverte. Elle est prussienne. Le 14 octobre, les Uhlans, qui n'ont pas accepté la mort d'un des leurs à Ponto, près de Varize, reviennent en force. Ce sont 200 cavaliers qui viennent de Pathé. Les mobiles et les francs-tireurs de Lipovski, de Châteaudun et la garde nationale sédentaire, dont Étienne Pinchot, Désiré, 54 ans, qui habite Gibraltar, un hameau de Civry, fait partie. Entre parenthèses, il est le père de mon arrière-grand-mère. Ils ne sont pas impressionnés, ces gardes mobiles, par les 200 Prussiens. Ils vont se battre. Les Prussiens, qui ne connaissent pas le terrain, échappent de peu au piège de la gourde de Spoix, mais laissent un homme mort sur le terrain et 5 prisonniers qui vont d'abord être conduits à Châteaudun par Victor, un pompier de Civry, puis à Cloyes. Les Prussiens, évidemment, sont très fâchés. Misérables, vous n'avez pas voulu ouvrir votre village aux hommes du roi Guillaume. Vous avez l'infamie de résister. Eh bien, si vous n'avez pas voulu vous laisser piller de bonne grâce, nous le ferons par la force. Vous avez eu l'infamie, avec une poignée d'hommes mal armés, qui ne sont même pas des soldats, de tenir tête à une remarquable armée prussienne. Alors, pas de pitié, vous allez être fusillés, incendiés, morts à vos femmes et à vos enfants. Croyez-moi, nous allons revenir. Le 15 octobre, les Prussiens reviennent. Ils sont 600 contre 60 mobiles. Les francs-tireurs sont repartis à Châteaudun. Le bombardement de Civry et de Varize surprend la population qui fuit. Les mobiles se battent. Mon aïeul, blessé par balle, est caché dans une meule de foin à la grand cour. Les Prussiens fouillent les meules à la baïonnette. Il est blessé à l'épaule. Il réussit à se traîner chez lui à Gibraltar en perdant beaucoup de sang. Sa femme, Françoise Barbier, prend la décision de le conduire dans une voiture à bras à l'hôpital de Châteaudun, en se cachant des troupes prussiennes. Ne voulant pas abandonner sa fille, Thérasie, de 15 ans qu'elle emmène avec elle. Cela fait plus de 15 kilomètres avec tous les détours. Églantine Thérasie Pinchot, mon arrière-grand-mère, a raconté cet épisode à mon père qui me l'a transmis. parti vers 5 heures du soir, à l'heure ancienne, comme disaient les gens de ma génération plus âgée, c'est-à-dire au soleil, 5 heures du soir, elles ont évité la grande route d'Alène pour passer par la route de Neubleville, puis le Moirville et Luxe-Sans-Dunois, pour prendre le chemin de Jalan. Je ne sais comment elles ont pu faire, car aujourd'hui, ce chemin m'est inconnu. Elles ont marché toute la nuit. Le bagneau dans lequel elles avaient placé ce pauvre Sébastien. Elles se présentent aux avant-postes de la cité du Noir un peu avant le jour. C'est-à-dire que de Civry à Châteaudun, elles ont dû mettre 9 ou 10 heures. Elles vont parlementer et Étienne sera admis à l'hôpital. Il sera caché par les sœurs lorsque les Prussiens chercheront les blessés après le 18 octobre. Ah, il n'aura pas pour autant de décoration. Reconnu blessé à la bataille de Civry, il sera réformé le 3 janvier 1872 à l'âge de 56 ans. Pendant ce temps, à Civry et à Varize, c'est la chasse aux mobiles qui se sont réfugiés dans les marais de la Conie. Les Prussiens ont des chiens qui cherchent les hommes. Et lorsqu'ils les trouvent, s'ils ne les abattent pas, ils les rouent de coups et les font prisonniers. À Civry, les maisons sont méthodiquement incendiées. Mais heureusement, leurs toits ne sont pas comme à Varize en rouche, ce roseau des marais de la Conie qui flambe en quelques instants. Il y a des morts. C'est tellement la panique que plus personne n'enregistrera les noms à l'état civil. Un mobile, Tachot, figurera un peu plus tard. Qu'est devenu le père Prévost, cabaretier cultivateur, qui en plein centre du village, sous son porche, refusera de donner son cheval à l'envoyeur et qui sera abattu. Le gamin lingé, qui fera exploser un canon prussien. Et cette pauvre mère, qui implorant l'officier allemand de ne pas mettre le feu à sa maison, sera elle aussi abattue avec son nourrisson dans les bras. À Varize, toutes sont pillées méthodiquement avant que les Prussiens les incendient. Il ne restera que l'église. Civry-Varize n'avait pas pour autant la paix. Le 29 novembre, les Prussiens sont de retour à Orgères et établissent un camp important à Corminville. C'est la préparation de la grande bataille de Loigny. Des troupes reviennent à Civry. Les Prussiens ont de la mémoire. Mais ils sont à nouveau attaqués par les tirailleurs girondins et parisiens qui stationnaient dans le secteur du parc du château de Varize. Ceux qui ne sont pas tués sont faits prisonniers. Les Prussiens emmènent en otage à Corminville le curé Isaïe Valentin, 62 ans, originaire de Lozère, qui, après avoir été curé d'Alène, a pris la cure de Civry. Ils ne le libéreront que 9 jours plus tard. Les Prussiens ont envahi toute la région. En automne, ils sont à Angers. Ils vident la cave du curé Péchaud. Il n'a plus une goutte de gnôle. C'est vrai, les Prussiens aimaient le flap, mais ils ne crachent pas sur la gnôle. À la Ferté-Villeneuil, le curé Augis nous rappelle qu'ils prennent des otages. À Cloua, le curé est fâché, parce que le soir de Noël, la messe de minuit devient un prêche protestant sur ordre du duc de Mecklembourg. Au bois de Feugère, on veut fusiller le meunier qui ferait des signaux avec les ailes de son moulin. Heureusement, un de ses confrères prussiens va expliquer les réglages nécessaires en fonction du vent dans ce métier. Et le père Pelard aura la vie sauve. On brûle, on taxe, on vole, on brutalise, on tue même. C'est la guerre, dit général von Tichys. C'est triste, mais c'est la guerre. Alors, un des épisodes importants, Henri le signalait tout à l'heure, dans cette bataille, dans cette guerre de 70. Alors, nous ne voulons pas, Radio Grand Ciel, bien sûr, faire l'apologie de la guerre, mais rappeler simplement que des hommes et des femmes meurent quelquefois, et même souvent, dans des conflits qu'ils n'ont pas souhaités. Et innocents, ils meurent en silence. Et c'est pour cela qu'il faut se rappeler ce qui s'est passé, pour que demain, cela ne se reproduise plus. Alors, à Loigny, la bataille, il y a eu, hélas, beaucoup de morts. Nous le verrons un peu plus loin. Dès novembre, Gambetta a décidé que l'armée de la Loire reconstituée. En réalité, c'est une armée faite de réservistes, de volontaires, de francs-tireurs. Pas très bien armée. Cette armée de la Loire, Gambetta voulait qu'elle remonte sur Paris pour casser l'encerclement de Paris par les Prussiens. La victoire de cette opération retournerait l'issue de la guerre bien engagée. L'armée de la Loire connaît un champ d'opération limité d'Orléans à Vendôme. Et notre pays du Nord est au cœur des batailles où l'issue de la guerre va se jouer. On n'a pas oublié le 18 octobre à Châteaudun, les 14 et 15 octobre à Civry-Varize et l'invasion prussienne de tous nos bourgs martyrisés et incendiés. Les Prussiens, évidemment, attendent des Français. Et ils pensent qu'ils vont attaquer vers Orgères. Mais les Français ignorent Orgères. Ils vont marcher sur Joinville. La route impériale numéro 20 conduit directement à Paris. Enfin, si tout va bien. Le 1er décembre 1870 s'annonce bien pour l'armée de la Loire. Le général Chanzy, avec le 16e corps d'armée, bouscule la 1ère division bavaroise à Villepion, tout près de Loigny, au sud d'Orgères. Il est appuyé en réserve par le général de Saunis, dont nous reparlerons tout à l'heure, et le 17e corps d'armée, qui est revenu à marche forcée du sud de Patay, où il était en position. Ce 17e corps, fertier de son général, possède en ses les volontaires de l'Ouest, conduits par la vieille noblesse qui résista à la Révolution, par cette noblesse issue de la chouannerie qui aujourd'hui défend son pays, sabre au clair, appuyé par les mobiles de la Sarthe. Rappelons-nous ce régiment cher à Laurentine Proulx, une des origines de Châteaudun. Mais il y a aussi dans les rangs de ce deuxième corps les zouaves pontificaux emmenés par le colonel de Charest. Pour Gambetta, ce 1er décembre, c'était une victoire. Hélas, elle suscita cet espoir qui rend l'orgueil imprudent. Elle eut cet orgueil qui rend l'espoir téméraire. Gouvernant soldat s'était cru invincible après la victoire de Coulmiers. Connaissons ce village, vers Ouzoir-le-Marché, Sarchonville. Hélas, cette victoire était sans lendemain, car le général Aurel de Paladine s'enferma dans Orléans et attendit la suite des événements au lieu de poursuivre l'offensive que demandait Gambetta. Donc, si Villepion c'était une nouvelle victoire, en plus, c'était le 1er décembre. La veille de l'anniversaire de la bataille d'Austerlitz qui avait eu lieu 65 ans plus tôt. On allait gagner, écraser les troupes prussiennes. Le lendemain, c'était certain, vu du ministre de la guerre à Tours dans son bureau. La veillée d'armes est toujours un moment terrible. Dans la soirée, le général de Saunis a réuni ses officiers supérieurs, puis tous ses zouaves pour un moment de fraternité. À 2h du matin, un dominicain vient leur dire la messe. Il communie. Au lendemain de ce terrible jour qu'on le voit vous compter, terrible oui, car sur les 8 officiers présents, 4 chansons de Roland parmi les douces fleurs du paradis. Et les 4 autres, gravement blessés, passeront la nuit par moins 20 degrés sur le champ de bataille avant qu'on les emporte vers un hôpital de campagne prussien débordé. En effet, ce 2 décembre 1870, il fait froid, très froid. Le vent d'Est qui balaie la plaine de Beauce transperce les uniformes et vous gèle jusqu'aux os. C'est ce vent de Beauce que rien n'arrête d'Orléans à Châteaudun. Ce vent de Beauce que seuls supportent ceux qui y sont nés. Dur, solide, comme les comprend Charles Péguy. Nous sommes nés au bord de la plate Beauce et nous avons connu dès nos plus jeunes ans le portail de la ferme et les durs paysans, et l'enclos dans le bourg, et la bêche et la fosse. Dès 8 heures, les zouaves entendent le canon vers le sud qui tonne. En début d'après-midi, le général de Saunis demande au colonel de Charette de reprendre Loigny que les Prussiens ont réussi à investir. Et le 37e régiment de ligne est encerclé dans le cimetière et l'église. Ancienne église, parce que l'église actuelle de Loigny n'est plus celle de 1870. Elle avait été complètement ravagée. Il a fallu la reconstruire. Ces hommes du 37e n'ont pas reçu l'ordre de retraite dans l'après-midi, alors que la plupart des troupes françaises ont reculé. Le colonel de Charette s'adresse à ses hommes. Zouave, les troupes ennemies hésitent. Montrons ce que peuvent faire des hommes de cœur et des chrétiens. Étendard du Sacré-Cœur en tête, il marchait sous une bannière blanche qu'une religieuse de la Visitation de Paray-le-Monial avait brodée, disant que des mains dévouées à la défense de la religion la porteraient au combat. Sacré-Cœur de Jésus sauvait la France sur une face et Saint-Martin, patron de la France, priait pour nous sur l'autre face. En 1 heure, cet étendard sera rougi du sang de ses héros. Ces héros, les zouaves en première ligne et les volontaires de l'Oise sur leurs talons, ont tenté de prendre le bois Bougon où les Prussiens sont retranchés, coupant la route du village. Ce bois aujourd'hui s'appelle, sur la route de Termigny, s'appelle le bois des zouaves. Il y a un monument du Sacré-Cœur dans ce petit bois. Loigny est bombardé et les Prussiens retranchés dans ce petit bois coupent la route du village. Bombardé Loigny, oui, mais aussi par des bombes à pétrole qui incendient les maisons du village. Les zouaves doivent donc absolument intervenir. Charette sort son épée et commande de monter à l'assaut. Jacques de Bouillet, qui portait l'étendard, tombe. Une autre main saisit l'étendard. Elle tombe. Et de main en main, l'étendard flotte toujours. Le général de Saunis, lui-même, se jette à la tête de ses glorieux soldats. Sur 300 zouaves pontificaux engagés, 200 vont mourir. À 5 heures, alors que la nuit tombe, les zouaves et les volontaires de l'Ouest encore valides battent en retraite. Ils n'ont pas réussi à sauver les hommes du 37e de ligne qui continuent un combat inégal contre les fusiliers du duc de Mecklembourg, arrivés en renfort côté sud, alors qu'une colonne de Uhlan les harcèle côté nord. Immobile dira « Voyez ce petit sergent, amputé de la main droite, avec un pansement rouge de sang, adossé à une tombe qui fait encore le coup de feu. Dans un français impeccable, un officier prussien, lorsque des combattants du 37e, ne tirez plus. Nous sommes maîtres du village, rendez-vous. La réponse est sans appel. Quand on est au cimetière, on n'en sort plus, car on est mort. Admirable attitude que celle de ces braves. Devant eux, une campagne éclairée par les feux des combats. Derrière eux, une église gémissant où crient des blessés et un village tout en flammes. Le pied posé sur une tombe, séparé de toute une armée, se préparait à mourir dans une résistance sans espoir et sans issue. Ces braves, parmi les braves, ont-ils un instant imploré la Vierge au moment où chacun se sentant mourir, on était seul? Ont-ils songé déjà à ces vers qu'écrira plus tard Charles Péguy? Nous ne le saurons jamais. Quand on nous aura mis dans une étroite fosse, quand on aura sur nous dit l'absoute et la messe, veuillez vous rappeler, reine de la promesse, le long cheminement que nous faisons en Beauce. Quand nous aurons quitté ce sac et cette corde, quand nous aurons tremblé nos derniers tremblements, quand nous aurons raclé nos derniers raclements, veuillez vous rappeler votre miséricorde. Le général bavarois von Kotwitsch s'adresse au colonel de Fouchier qui commandait un des deux bataillons du 37e régiment de marche, qui était un régiment qui était composé de réservistes de plusieurs régiments d'infanterie. Donc, il demande, ce général, le colonel Fouchier, qui est blessé, qui est hors d'état de servir, il est prisonnier, il lui demande d'arrêter le combat désespéré de ses soldats, cernés, qui n'ont d'autre issue que de mourir. La réponse du colonel est cinglante. C'est à vous d'arrêter le feu de mes soldats. Ce n'est pas mon affaire. Le général de Saunis passa la nuit blessé gravement par une balle à la cuisse, dans un froid insupportable. La terre est gelée. Le thermomètre dans la nuit du 2 au 3 décembre était descendu à moins 20 degrés. Il est au milieu de ses zouaves, dont certains, se sentant mourir, cherchaient le réconfort de ce militaire, croyant, serviteur de Dieu, qui fut ramassé le lendemain par les Prussiens et fait prisonnier. Il sera amputé le 4 décembre d'une jambe. Il resta au service de la France, comme général, mais il n'accepte pas que la République désagrège les communautés religieuses avec en plus l'appui de ce soldat. Ce n'est pas le métier de mes soldats, dira-t-il. Alors, en 1883, il cessa toutes ses fonctions. Il sera anobli par le pape Léon XIII. Le 17 août 1887, le général de Charette prononcera l'éloge funèbre. Le général de Saunis est mort. C'est au milieu de nous qu'il est tombé, soldat de la France, soldat de Dieu. Toute sa vie peut se résumer en deux mots. Honneur et sacrifice. Les généraux de Saunis et de Charette reposent au milieu des braves de Loigny-la-Bataille. Sur la pierre tombale du général de Saunis, on peut lire cette épitaphe. Soldat du Christ. Cette bataille sera sans doute l'épisode douloureux de cette guerre de 1870. La France était définitivement vaincue. Le bilan de la bataille de Loigny et des villages environnants, Poupry, Terminié, Lumeau, est terrible. 9000 hommes, Prussiens et Français, auront perdu la vie ce 2 décembre 1870. 9000 hommes, Français, oui, Prussiens, oui, mais des hommes. Alors, paix à leur âme. Il faut aller à Loigny se recueillir, il faut visiter le musée, il faut aller dans l'église, il faut lire tous ces noms qui sont écrits sur les vitraux, il faut regarder les tableaux de Royer, et même si vous allez au musée des armées à Paris, vous trouverez une toile de Castelli qui représente cette bataille de Loigny. Car la bataille de Loigny est la bataille fatale de la guerre de 1870. Merci.
Merci Jean-Claude d'avoir si bien raconté tout ce qui s'est passé à ce moment. Et même ce sont des souvenirs de ta famille, comme tu l'as dit toi-même. Donc à Loigny, le 2 décembre, il y a des commémorations. Et déjà, toi, tu m'as dit que pour rédiger ce que tu viens de nous lire, tu t'es rendu à nouveau sur tous ces champs pour avoir mieux sentir ce qu'il faut, mieux nous faire vivre ce que tu viens de nous dire. Alors écoute, encore un grand merci. Et donc, alors la paix a été finalement, l'armistice a été signé en janvier, c'est ça, quelques temps après, là, à Versailles, oui. En janvier, oui, au Palais des Glaces, oui, oui. Et on voit bien ce qu'on ne comprendra toujours pas, c'est que d'un côté, on a les Prussiens protestants, de l'autre, on a les Français catholiques, y compris les Vendéens, comme tu nous as dit, et même les gardes pontificaux. Alors pourquoi est-ce qu'on se bat entre chrétiens là? C'est encore un des grands mystères du mal, là, dont tout le monde débat. Et alors, quand est-ce que ça s'arrêtera? On espère toujours que dès aujourd'hui, ça va s'arrêter, hein, dès l'instant où on se cause. Alors, l'espérance est là. Il faut toujours continuer à entretenir la flamme de l'espérance et faire tout ce qu'on peut pour cela. Au revoir à tous.